Les 10 mères les plus influentes de la Bible. Découvrez les histoires profondes des mères de la Bible, ces femmes qui, par leur force, leur sagesse et leur foi inébranlable, ont façonné les premiers récits de la foi. La Bible décrit de nombreuses mères, parmi lesquelles figurent les plus importantes, Ève, mère de tous les vivants, Sarah, mère d'Isaac, Anne, mère de Samuel, Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, et Marie, mère de Jésus. Ces matriarches ont joué un rôle essentiel dans l'histoire biblique. Leurs vies sont non seulement fondamentales pour le christianisme, mais elles offrent aussi des leçons intemporelles sur la maternité, le courage et la foi, qui résonnent encore en nous aujourd'hui. Penchons-nous sur 10 mères extraordinaires de la Bible. Ces femmes ont obéi à l'appel de Dieu, se sont dévouées sans compter et ont bâti une vie de foi pour leur famille. Nous pouvons beaucoup apprendre de l'exemple de ces mères bibliques. 1. Sarah, la mère patiente. Dans Genèse 11h30, nous lisons « Or Sarah y était stérile, car elle ne pouvait concevoir. Cette situation devait affliger Sarah et Abraham. » Dans Genèse 15, lorsque la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, celui-ci répondit « Que me donneras-tu, Éternel, puisque tu ne m'as pas donné d'héritier ?» Dieu lui dit de regarder les étoiles du ciel, car ce serait le nombre de sa descendance. Abraham et Sarah attendirent 15 ans avant que Dieu ne renouvelle sa promesse, puis 10 ans de plus avant que la promesse ne s'accomplisse et que Sarah ne donne naissance à un fils, Isaac. Sarah n'aurait sans doute pas mérité une médaille pour sa patience et elle se moquait même de l'idée que Dieu puisse tenir ses promesses. Heureusement, la promesse de Dieu ne dépendait pas de la foi de Sarah. Dieu accomplit sa promesse selon son plan et Sarah répondit, comme on le rapporte dans Genèse 21. Dieu m'a donné la joie, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Double guillemets fermant. Imaginez attendre si longtemps une telle bénédiction. Sarah essaya de croire en la promesse, mais elle douta jusqu'à ce qu'elle se réalise enfin. Alors, elle rit de joie devant ce que le Seigneur avait fait. Isaac perpétuerait ainsi l'héritage de son père Abraham. 2. Agar, la mère persévérante. Agar était une esclave égyptienne et la servante de Sarah, l'épouse d'Abraham, elle n'avait guère son mot à dire, et surtout pas sur le fait de devenir l'épouse d'Abraham. Bien que son statut ait changé, elle restait subordonnée à Sarah. Lorsqu'Agar tomba enceinte de l'enfant d'Abraham, une dispute éclata entre elle et Sarah. Maltraitée par Sarah, Agar s'enfuit vers son pays d'origine. Mais elle rencontra l'ange de l'Éternel qui lui dit de revenir. Il lui promit également une nombreuse descendance par son fils, qu'elle devait appeler Ismaël. Plus tard, Agar et son fils Ismaël furent envoyés dans le désert, où elle pensait qu'ils mourraient tous les deux. Mais Dieu est fidèle et lui montra un puits. La Genèse 21 nous dit, Dieu était avec l'enfant pendant qu'il grandissait. Il vécut dans le désert et devint archer. Double guillemets fermant. Agar pensait pouvoir échapper à sa misère, mais Dieu l'appela à y retourner. Elle obéit, et il la bénit, elle et son fils, comme il l'avait promis. 3. Rebecca, la mère qui a cru. Rebecca était une femme d'une grande foi. Elle obéit à Dieu lorsque le serviteur d'Isaac lui parla de l'homme qui voulait l'épouser. La Genèse 25 nous dit que, lorsqu'elle tomba enceinte, Rebecca sentit les bébés bouger en elle. Quand elle demanda à l'Éternel pourquoi cela arrivait, il lui répondit, « Deux nations sont en toi, et deux peuples issus de ton sein se sépareront, l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » À cette époque, l'aîné n'aurait jamais servi le cadet, et le fils aîné aurait hérité du meilleur de tout. Quand Isaac fut âgé, il dit à Ésaü de chasser et de préparer de la nourriture afin de recevoir sa bénédiction. Mais Rebecca entendit cela et dit à Jacob de lui apporter de la nourriture afin qu'elle puisse la préparer d'abord pour Isaac. Jacob hésitait à tromper son père, mais Rebecca répondit dans Genèse 27, « Mon fils, que la malédiction retombe sur moi. Fais seulement ce que je te dis, va me les chercher. » On peut affirmer sans risque qu'elle se souvenait et prenait très au sérieux ce que Dieu lui avait dit pendant sa grossesse. Rebecca a pris le risque de tromper pour suivre la promesse de Dieu car elle croyait en la vérité de ses paroles. Il convient de noter que Dieu n'a pas incité Rebecca à la tromperie, mais il est souverain, quels que soient les bons ou les mauvais choix que nous fassions. Et son plan s'est déroulé exactement comme il le lui avait annoncé. Plus tard, son fils Jacob lutterait avec Dieu et recevrait un nouveau nom, Israël. 4. Léa et Rachel, deux mères contraintes au partage. Lorsque Jacob alla séjourner chez son oncle Laban, il rencontra Rachel, l'une de ses filles, et en tomba amoureux. Il la désirait pour épouser et était prêt à travailler 7 ans pour l'obtenir. Mais Laban trompa Jacob en lui donnant plutôt sa fille aînée, Léa, en mariage. Jacob travailla 7 années supplémentaires pour Rachel, et son amour pour elle n'en fut que plus grand. Léa, se sentant délaissée, donna à Jacob de nombreux enfants pour lui plaire, tandis que Rachel restait stérile. Finalement, les deux femmes offrirent leur servante à Jacob, qui, à leur tour, lui donnèrent d'autres enfants. Le chapitre 30 de la Genèse nous dit, « Dieu se souvint de Rachel, l'exauça et lui permit de concevoir. Rachel donna à Jacob deux fils, Joseph et Benjamin, avant de mourir en couche pour Benjamin. Les frères et sœurs aiment se mesurer les uns aux autres, mais imaginez devoir partager un mari avec votre sœur, avec le sentiment constant de devoir surpasser l'autre. Pourtant, Dieu bénit Léa et Rachel en leur donnant tous deux des enfants, accomplissant ainsi sa promesse d'alliance avec Abraham. Les fils de Léa et Rachel allaient former les 12 tribus d'Israël. 5. Jochébed, la mère qui avait un plan. Un nouveau pharaon monta au pouvoir en Égypte. N'ayant aucune obligation d'honorer les actes de Joseph en Égypte ni de maintenir l'accord particulier conclu avec les Israélites, il craignait que les Hébreux ne deviennent plus nombreux et ne supplantent les Égyptiens. Il les réduisit donc en esclavage et ordonna aux sages-femmes hébraïques de tuer les nouveau-nés mâles hébreux, mais elles désobéirent. Le pharaon promulgua alors un autre décret, relaté dans l'Exode 1, « Vous jetterez dans le Nil tout garçon hébreu qui naîtra, laissez vivre toute fille. » ». Jochébed, une femme lévite, donna naissance à un fils et le cacha pendant 3 mois. L'Exode raconte que, ne pouvant plus le cacher, elle enduisit un panier de papyrus de bitume et de pois, y déposa l'enfant, puis le confia au roseau, sur la rive du Nil. Myriam, la fille de Jochébed, observait la fille du pharaon descendre prendre son bain. Apercevant le panier, la fille du pharaon en fut informée par ses servantes. À l'intérieur, elle découvrit un bébé qui pleurait. Sachant qu'il était hébreu, elle fut prise de compassion. Myriam demanda alors à la fille du pharaon si elle souhaitait qu'elle aille chercher une femme hébraïque pour allaiter l'enfant. La fille du pharaon accepta et Jochébed retourna avec sa fille allaiter son propre bébé. Elle paya Jochébed pour qu'elle allaite et élève l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en âge de vivre avec elle. Elle l'adopta alors et le nomma Moïse. Déterminée à sauver son fils, Jochébed vit son projet exaucé par Dieu. Non seulement son fils fut sauvé de la mort, mais elle put l'allaiter et l'élever jusqu'à ce qu'il soit en âge de vivre avec la fille du pharaon. Moïse libéra ensuite le peuple hébreu d'Égypte, le guidant à travers le désert vers la terre promise, conformément au plan divin. 6. La mère de Samson, une mère vertueuse. Elle n'est pas nommée dans le livre des juges, bien que certains l'identifient à Aslelponi, mentionnée dans 1 Chronique 4. Impossible d'en être certain, on peut donc supposer que ses actes importent plus que son nom. Mariée à un homme nommé Manoah, elle ne put avoir d'enfant. Le livre des Juges, chapitre 13, nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Tu es stérile et sans enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Prends garde de ne boire ni vin ni boisson fermentée, et de ne rien manger d'impur. Tu vas concevoir et enfanter un fils dont la tête ne sera jamais touchée par le rasoir, car cet enfant sera un Naziréen, consacré à Dieu dès sa naissance. Il sera l'un des premiers à délivrer Israël de la main des Philistins. » La mère de Samson savait que l'ange de l'Éternel avait quelque chose de spécial, et lorsque son mari craignit pour leur vie pour avoir vu le visage de Dieu, elle fit preuve de raison, disant, « S'il avait voulu nous tuer, il ne nous aurait pas dit ces choses. » ». Elle donna naissance à l'enfant et le nomma Samson, et l'Éternel le bénit. Bien que certaines de ses actions aient été discutables, l'Éternel se servit puissamment de lui dans son plan pour vaincre les Philistins. 7. Naomi, la belle-mère qui a partagé sa foi. Naomi et sa famille s'enfuirent au pays de Moab à cause de la famine. Son mari mourut et ses deux fils épousèrent des Moabites, Orpa et Ruth. 10 ans plus tard, les deux fils de Naomi décédèrent et Naomi apprit que l'Éternel avait de nouveau béni le pays de son peuple en lui accordant de la nourriture. Elle dit à ses belles-filles qu'elles pouvaient rentrer chez elles pour se remarier. Bien qu'elles pleurèrent son départ, l'une d'elles refusa de quitter Naomi. Orpa retourna auprès de son peuple et de ses dieux, mais Ruth dit « Ne me force pas à te quitter ni à m'éloigner de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et là je serai enterré. Que l'Éternel me punisse sévèrement, même si la mort nous sépare. » Même dans les moments difficiles, Ruth apprenait déjà de la foi de Naomi. Naomi continuait de veiller sur Ruth et de la conseiller sagement dans ses relations avec Boaz, devenu son parent rédempteur. L'Éternel bénit Naomi, elle eut un fils lorsque Boaz épousa Ruth. Ruth et Boaz eurent un enfant, et les femmes du pays dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel, qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans protecteur et rédempteur. Qu'il devienne célèbre dans tout Israël. Il te redonnera la vie et te soutiendra dans ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que sept fils, lui a donné naissance. L'enfant fut nommé Obed, il fut le père de Jessé, le père de David, qui deviendrait roi. Ruth 4:17. 8. Anne, la mère qui tint sa promesse. Anne était mariée à un homme qu'il aimait beaucoup, mais il avait déjà une autre femme. Cette femme était capable d'avoir des enfants, mais dans 1 Samuel 1, 5 à 6, nous apprenons que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Sa rivale la provoquait sans cesse, mais Anne se rendait à la maison de l'Éternel pour prier. Son mari essaya de la consoler en disant, « Ne vaux-je pas plus pour toi que 10 fils ?» 1 Samuel 1, 8. Anne pria l'Éternel et pleura amèrement, elle fit un vœu en disant, « Éternel Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante et te souvenir de moi, si tu ne m'oublies pas et si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute sa vie, et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. » ". En réalité, elle priait avec tant d'ardeur que ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son n'en sorte, si bien que le prêtre Élie la crut ivre. L'Éternel bénit Anne, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle avait demandé un fils à l'Éternel. 1 Samuel 1:20. Elle tint sa promesse et, lorsque l'enfant fut en âge de procréer, elle le conduisit à la maison de l'Éternel et le présenta à Élie. Anne pria alors. Mon cœur exulte en l'Éternel ma force s'élève. Ma bouche triomphe de mes ennemis, car je prends plaisir à ta délivrance. Sa belle prière se poursuit dans 1 Samuel 2, 1 à 10. Samuel consacra sa vie à l'Éternel et devint le chef du peuple d'Israël, oignant les premiers et deuxièmes rois d'Israël, Saul et David. 9. Élisabeth, la mère qui croyait au miracle. Élisabeth était mariée à un prêtre nommé Zacharie. Luc 1 nous apprend qu'Élisabeth et Zacharie étaient tous deux justes devant Dieu et observaient tous ses commandements. Mais Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux d'un âge avancé. Comme à l'époque de Job, on aurait pu penser qu'Élisabeth était stérile à cause du péché. Cela devait être très difficile à accepter, surtout pour une épouse de prêtre. Alors que Zacharie officiait au temple, un ange du Seigneur, Gabriel, lui apparut et lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi une joie et un sujet d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand aux yeux du Seigneur. » Luc 1:13-14. Zacharie, encore perplexe, se demandait comment cela était possible et, rongé par le doute, resta muet pendant toute la grossesse d'Élisabeth. Comblée de joie par cette bénédiction, Élisabeth s'écria, « C'est le Seigneur qui a fait cela pour moi. En ces jours, il m'a témoigné sa faveur et a effacé ma honte parmi le peuple. » Luc 1:25. Lorsque Marie, la mère de Jésus, vint rendre visite à sa cousine Élisabeth, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle se réjouit grandement de la grossesse de Marie et de la bénédiction du Seigneur. Au moment de l'accouchement, Élisabeth nomma son fils Jean. Lorsque les voisins allèrent vérifier auprès de Zacharie, celui-ci écrivit le même nom et sa bouche s'ouvrit, tous s'interrogeaient sur l'identité de l'enfant, car sa naissance était miraculeuse. Jean baptiserait les gens par l'eau pour les purifier de leurs péchés. Il préparerait le chemin du Messie. 10. Marie, la mère bénie entre toutes les femmes. Marie, vierge promise à Joseph, reçut également la visite de l'ange Gabriel. Il lui dit, dans Luc 1:31, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » ". Marie s'interrogea sur la possibilité de cela, et l'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Marie accueillit ces paroles avec foi. Lorsqu'elle rendit visite à sa cousine Élisabeth, celle-ci s'exclama, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et l'enfant que tu enfanteras est béni. » Marie crut que Dieu accomplirait sa promesse. Un ange du Seigneur apparut également à Joseph et le rassura quant à la grossesse de Marie. Comme nous le lisons dans Matthieu 1, Joseph prit Marie pour épouse, mais ils ne consommèrent leur mariage qu'après la naissance de leur enfant. Marie et Joseph se rendirent à Bethléem pour le recensement, où elle accoucha dans une extrême pauvreté. Marie chérissait de nombreuses choses dans son cœur en élevant Jésus, mais elle dut aussi endurer le plus grand sacrifice de tous les temps, son fils était le Fils de Dieu et il était venu s'offrir en sacrifice, le seul et unique sacrifice possible pour l'humanité. Elle dut le voir souffrir, être torturée et moquée, et mourir d'une mort cruelle sur une croix, par crucifixion. Jean 19 nous dit. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, lui dit, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès lors, le disciple la prit chez lui. Ferment. Même à l'article de la mort, Jésus prit soin de sa mère et lui donna un nouveau fils à aimer. Marie était bénie entre toutes les femmes, car Dieu l'avait choisie pour porter son fils et l'élever. Malgré la mort, la joie de Marie demeurait, car son fils n'était pas resté mort. Il est ressuscité d'entre les morts, assurant ainsi la vie éternelle à Marie et à tous ceux qui croiraient.